Alors, pour ajouter, avant de passer au recrutement, dans la question les buts, il y avait aussi des règles. Madame a dit quels sont les buts, mais aussi les règles. Donc, les règles, je pense que ça devait être fonctionnement, des choses comme ça, madame. Oui. Donc, les conditions. D'accord. Donc, quelles sont les règles d'adhésion, de rentrée en franc-maçonnerie? Voilà. Et on passera au recrutement. Je n'oublie pas le recrutement, mais on est en train de cerner la franc-maçonnerie. On parlera du recrutement. Donc, comment on fait pour rentrer en maçonnerie?
Bon, il y a plusieurs possibilités. Si vous connaissez quelqu'un qui est déjà maçon, vous serez peut-être abordé par cette personne. Vous pourrez peut-être lui en parler. C'est un des moyens pour accéder. Vous pouvez, avec les moyens modernes, vous connecter sur les sites des différentes obédiences et vous allez trouver tout simplement le chemin qui vous conduira à tel endroit. Vous pouvez vous adresser spontanément, faire une demande spontanée, comme on dit, en écrivant à telle ou telle obédience et rencontrer comme ça. Ça se fait de la manière la plus simple du monde. Sur les règles, je ne sais pas si je vais exactement répondre à ce que vous souhaitiez, mais ce que je voudrais dire, c'est que le fonctionnement en loge est un fonctionnement réglé, effectivement, ritualisé, pour employer des mots qui vont peut-être un peu loin, mais il l'est, bien sûr, pas pour le plaisir de faire ça, mais pour se structurer d'une certaine façon vis-à-vis des autres dans le travail de la loge. C'est une manière pour nous de nous préparer et de nous constituer comme maçons vis-à-vis des autres à l'intérieur de cette loge. Donc c'est un espace qui est préservé, qui se veut préserver, qu'on veut maintenir comme tel, qui ne soit pas ouvert à tous les vents, et pour essayer de sortir de cela, non pas des éléments de langage qui nous bassinent à longueur de temps sur les chaînes de télévision rapides, etc., qui en deux mots, deux lignes, nous disent ce qu'il faut penser et livrent du prêt-à-penser, comme ça a été dit, mais essayer d'approfondir des thèmes qui peuvent être philosophiques, historiques, sociaux, moraux, de toutes sortes, et qui sont destinés par la suite à armer, en quelque sorte, chacun des membres de cette loge pour qu'il aille, selon sa pente personnelle, intervenir dans le monde social. C'est un devoir pour un maçon de poursuivre au dehors ce qu'il apprend dans la loge.
Ça c'était une façon. Vous voulez ajouter, oui. Je suppose que c'est la même chose dans les différentes obédiences.
Concernant les règles, je reste sur les règles là.
Oui, oui.
Ben, si vous voulez, concernant les règles, toute organisation humaine en a besoin et il y a des règles au niveau local. Elles viennent d'être précisées par le grand maître du droit humain. Il y a des règles au niveau local, ce sont les loges. Il y a des règles au niveau régional, c'est des regroupements régionaux de loges. Et il y a des règles au niveau national. Globalement, elles se définissent par le caractère éligible de toutes les fonctions de responsabilité. Autrement dit, le président d'une loge est forcément élu, il ne peut pas se nommer lui-même, hein, d'accord ? Et s'il est nommé par le groupe qu'il préside, c'est tout simplement parce qu'il a été élu à bulletin secret. Son mandat ne peut pas dépasser 3 ans et il est renouvelé une fois tous les ans. C'est-à-dire que s'il ne donne pas satisfaction au bout d'un an, il est en quelque sorte remercié, hein, avec les honneurs, mais il est remercié quand même. Et nous considérons que ce caractère extrêmement démocratique garantit le dynamisme du fonctionnement de ces loges. Il en est de même au niveau régional, car tous les représentants régionaux sont élus, et au maximum pour 3 ans. Et au niveau national, les représentants sont également élus, et au maximum pour 3 ans. Alors pourquoi tenons-nous au caractère de la réélection ou de l'élection annuelle? C'est tout simplement parce que cela permet de sanctionner le dysfonctionnement éventuel s'il y en a un. Et pourquoi tenons-nous à la possibilité de se projeter sur 2 ou 3 ans? C'est parce que pour une responsabilité, une fonction, il faut une certaine capacité à se projeter sur le moyen, voire le long terme, de manière à être efficace dans la gestion et la gouvernance. Donc, pour résumer, ce fonctionnement, que ce soit au niveau local, régional ou national, est éminemment démocratique et nos mandats ne peuvent pas dépasser 3 ans au grand maximum.
Tu veux peut-être dire un mot, Philippe ? Merci, ça c'était le fonctionnement interne démocratique, on a bien compris. Alain Michon nous avait dit comment rentrer, parce qu'il y avait aussi ça, hein, comment est-ce que c'était possible. Philippe Foussier voulait ajouter quelque chose sur comment est-ce que c'est facile de rentrer, est-ce que...
c'est facile de rentrer. C'est pas forcément facile de rentrer. D'abord, ça prend du temps. C'est une démarche qui nécessite, de la part du candidat, une véritable motivation. Et une motivation qui est naturellement, qui peut être soumise à question, parce que lorsqu'on est candidat à la franc-maçonnerie, qu'on n'en connaît pas l'univers ou les codes, qu'on n'a pas de relations, qu'on n'a pas d'amis qui sont eux-mêmes francs-maçons, on est face à un univers un peu opaque, un peu difficile à comprendre. Donc pour cela aussi, on ne sait pas nécessairement où on va tomber. Et donc, il y a cette démarche à faire qui nécessite beaucoup de volonté, beaucoup de perspicacité, beaucoup d'énergie, je dirais, pour être candidat et vouloir rejoindre la franc-maçonnerie, encore une fois, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va y trouver au bout. Dans les règles de fonctionnement, il y a aussi le fait que, cela a été dit à travers les ligues, à travers les propos, nous nous retrouvons en franc-maçonnerie dans un espace qui est coupé du monde, temporairement. C'est-à-dire que nous nous mettons en situation pendant quelques heures par mois, lorsque nous nous réunissons dans le cadre de nos tenues, qui sont les moments pendant lesquels nous nous retrouvons, nous nous mettons en retrait du monde. Nous nous mettons dans une situation où nous échappons un peu à la pression du moment. Et cela a été dit aussi, nous acceptons, pour nous améliorer nous-mêmes, de nous mettre dans une sorte d'inconfort de la pensée. C'est-à-dire que si nous sommes engagés sur le plan politique, associatif, humanitaire, syndical, que sais-je encore, nous sommes là dans des organisations qui disposent, je dirais, d'un prêt-à-penser. Lorsqu'on vient en maçonnerie, on vient justement pour remettre en cause le prêt-à-penser, y compris le sien propre. On se met dans l'inconfort de la pensée. On accepte de se remettre en cause. On accepte de travailler sur ce qu'on dit, sur ce qui peut être... pour nous des réflexes, un confort, une forme de confort dans la pensée, et donc nous faisons cet effort. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous extraire du monde, de la pression, encore une fois temporairement, nous ne sommes pas des ermites, nous ne sommes pas là pour nous extraire totalement du monde, mais temporairement, pour travailler bien, nous avons besoin de nous couper, et donc c'est ce qui aussi peut justifier le fait que beaucoup de gens estiment que la franc-maçonnerie est quelque chose de très mystérieux, qui génère donc beaucoup de fantasmes. C'est une nécessité pour nous, parce que nous ne pouvons bien travailler qu'en étant précisément temporairement coupés de la société qui nous environne.